qui lance la chasse aux niches fiscales pour consolider son budget l'an prochain. Nous y reviendrons avec nos éditorialistes et avec notre esprit libre du jour, le journaliste Franz-Olivier Gisbert. Ce sera à 8h40. Et puis, à mi-parcours, nous ferons une pause au PMU, lieu populaire et objet sociologique, dans le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Rendez-vous sur le Zing à 8h moins le quart.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Bonne journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Comment croire encore à la paix à Gaza? Des Israéliens et des Palestiniens se sont retrouvés à Paris hier soir pour un appel à la paix. Qui vise les prisons françaises? Les autorités privilégient toujours la piste du narcotrafic. Et puis E.T. est encore une fiction, mais des astronomes ont détecté des indices de vie sur une planète hors du système solaire.
Retour sur Terre dans quelques instants. Le grand ménage du gouvernement dans les niches fiscales, dans l'édito éco d'Étienne Lefebvre. Enfin, Emmanuel Guichard, délégué général de la FEBEA, le syndicat de l'industrie des cosmétiques, sera la voix de l'économie à 7h15. À la une, Virginie, la paix s'est affichée sur la tour Eiffel hier soir.
Salam, shalom, le mot paix en arabe, en hébreu, mais aussi en français, en anglais, qui scintille sur la tour Eiffel. Ça ne va pas ramener la trêve dans la bande de Gaza, mais c'est un appel qu'ont lancé des pacifistes israéliens et palestiniens hier soir à Paris. Lauriane Toulmont était parmi eux pour Radio Classique.
Mao Zinon est israélien. Ses parents ont été tués par le Hamas le 7 octobre 2023.
Moi et mes quatre frères et sœurs, on a tous rejeté l'idée de revanche et choisi le chemin de la réconciliation. Croire que la guerre peut permettre de se défendre, les bombes apporter le silence et les murs la sécurité, ça n'a jamais marché.
Il voit avec inquiétude les allégations du premier ministre israélien et du président américain Donald Trump, qui entendent construire une riviera à Gaza en expulsant les Palestiniens.
Leurs rêves sont nos cauchemars. Les États-Unis ont leurs propres problèmes. On ne peut pas les attendre. J'espère que la France, avec le président Macron, aura une position de leader dans les négociations de paix. C'est crucial.
Le président de la République milite pour une reconnaissance mutuelle de l'État palestinien et d'Israël. Une position que soutient Ibrahim Abu Ahmad, palestinien et citoyen israélien.
Il n'y a pas de sécurité pour Israël sans libération de la Palestine, et il n'y a pas de libération de la Palestine sans sécurité d'Israël. Si on continue la guerre, on disparaîtra. Regardez les Amérindiens, ils ont été éradiqués. Maintenant, ils sont juste une part d'histoire. Je ne veux pas que ça arrive à mon peuple.
Ces pacifistes israéliens comme palestiniens attendent beaucoup du sommet des Nations Unies sur la Palestine en juin prochain, organisé par la France et l'Arabie Saoudite.
En attendant, le Hamas n'a pas encore répondu à la nouvelle proposition de trêve israélienne et Israël exclut toujours toute entrée d'aide humanitaire à Gaza. L'Iran n'est pas loin de posséder l'arme nucléaire. Le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, prévient alors qu'il est en visite à Téhéran. Les États-Unis demandent l'arrêt des programmes d'enrichissement d'uranium iranien. L'Iran refuse net et les marges de manœuvre de l'AIEA sont étroites, nous explique Thierry Coville, il est spécialiste de l'Iran à l'IFRI.
Le pouvoir de l'AIEA sur l'Iran est quand même relativement limité et tout le monde attend de voir ce qui va se passer lors des prochaines réunions entre Abbas Al-Orchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, et Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient. Il faut être très prudent. On peut imaginer que l'AIEA aura un rôle important de vérification si jamais il y a un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc il est très important pour l'AIEA de maintenir le contact avec l'Iran, même s'il est quelque part impuissant. Il est très dépendant de ce qui va être négocié entre l'Iran et les États-Unis.
Des propos recueillis par Servane de Pastre. L'Ukraine, au programme des discussions, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Des frappes russes ont fait 3 morts et au moins 28 blessés cette nuit dans l'est de l'Ukraine. Le commerce mondial va connaître un reflux historique cette année. L'OMC mise sur un recul entre 0,2 et 1,5% sous l'effet des droits de douane voulus par Donald Trump. Les partenaires commerciaux des États-Unis tentent de négocier avec le président américain. Aujourd'hui, c'est la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui est reçue à la Maison-Blanche. Donald Trump, qui continue sa croisade contre Harvard, il menace maintenant d'interdire à l'université d'accueillir des étudiants étrangers si elle n'accepte pas de se soumettre à un contrôle en matière d'admission, d'embauche et d'orientation politique.
7h04 sur Radio Classique. Emmanuel Macron promet que ceux qui s'attaquent aux prisons seront retrouvés, jugés et punis.
Mais qui est derrière ces attaques? Les premiers éléments de l'enquête concordent vers un groupe organisé, mais les motivations restent mystérieuses, Charles Ducrot.
Le nom d'un surveillant pénitentiaire sur une boîte aux lettres apparaît en gros plan, puis un véhicule en feu. La vidéo de quelques secondes accompagnée d'un message de menace circule dans un groupe de la messagerie cryptée Telegram, DDPF, un groupe dont le sigle est systématiquement inscrit sur les sites ciblés, des prisons jusqu'au domicile de certains agents. Les autorités privilégient toujours l'idée d'une organisation liée au narcotrafic, mais l'hypothèse de la piste d'une convergence ultra-gauche criminalité reste étudiée par le parquet national antiterroriste. Très prudent, tant les incertitudes demeurent autour de méthodes encore jamais vues. Du côté des établissements pénitentiaires, depuis hier, des rondes sont menées par des effectifs de gendarmerie ou de police autour des prisons partout en France. Les agents sont escortés par les forces de l'ordre à chaque relève, détaillent plusieurs syndicats qui précisent que leurs collègues directement visés ont immédiatement été placés sous protection policière. Le ministère de l'Intérieur ne détaille pas les chiffres de ces opérations, mais confirme l'étude de nouvelles mesures.
Et nous en reparlerons avec Frédéric Ploquin, mon invité à 8h15. Il est spécialiste du grand banditisme et du renseignement intérieur.
Pierre Moscovici est de très mauvaise humeur. Le président de la Cour des comptes menace de ne plus certifier les comptes de l'État si les recommandations faites par l'institution ne sont pas mieux suivies par le gouvernement. Il étrille notamment l'exécution chaotique du budget 2024. Et s'il y avait bien une vie hors de la Terre ? Des astronomes ont découvert des indices prometteurs de l'existence d'une vie sur une planète hors de notre système solaire. Chloé Sénard, on est encore loin d'avoir découvert des extraterrestres quand même.
Tout se passe sur la planète K2-18b, située à 124 années-lumière de la Terre. Une équipe de chercheurs américano-britanniques a utilisé le télescope spatial James Webb pour l'observer et a détecté des signes de composés chimiques dans son atmosphère, ce qui pourrait attester d'une possible vie extraterrestre. Mais ces signes restent cependant bien au-dessous du seuil qui permet aux scientifiques de valider une découverte. Des chercheurs n'ayant pas participé à l'étude appellent à prendre ces résultats avec précaution. Pour eux, les composés chimiques peuvent être produits par d'autres moyens encore inconnus. Et surtout, K2-18b serait beaucoup trop chaude pour héberger la vie et pourrait même abriter des océans de lave. Pour l'équipe de scientifiques à l'origine de l'étude, il faut encore 16 à 24 heures d'observation supplémentaire pour valider ou non leur découverte. Le résultat est attendu dans les prochaines années.
Merci Chloé Sénard. La parité dans le sport, ça n'est pas encore gagné. Le Haut Conseil à l'égalité s'inquiète du manque de femmes, notamment dans les instances sportives. Marine Salaville.
Seulement un tiers de femmes parmi les dirigeants de clubs ou de fédérations et aussi un tiers de femmes encadrantes, comprenez les éducatrices, les cadres techniques sportifs et les coachs, y compris dans les sports féminins. Ce chiffre est même en baisse depuis 10 ans. De même, moins de 10% des arbitres professionnels sont des femmes. À l'inverse, comme dans d'autres milieux, elles sont majoritaires dans les métiers liés aux soins et à l'aide à la personne, comme le sport pour la santé ou à destination des personnes en situation de handicap. En guise d'explication, le rapport cite le peu d'étudiantes au sein des formations STAPS qui mènent vers les métiers du sport, mais aussi la valorisation d'un idéal de virilité et le manque de modèles féminins. Pour surmonter ces obstacles, le Haut Conseil formule 40 recommandations, comme la création d'un programme pour encourager les jeunes filles à choisir ces métiers ou encore le conditionnement de subventions publiques à des objectifs de féminisation.
Ça n'est pas encore cette année que Kylian Mbappé remportera la Ligue des Champions. Le Real Madrid éliminé par Arsenal en quart de finale, 2-1 pour les Anglais hier soir après leur victoire 3-0 à l'aller. Et ce sont donc les Anglais qui seront opposés au Paris Saint-Germain à la fin du mois. Et puis on rappelle qu'il faut faire attention si vous êtes en vacances dans les Alpes. Alerte orange aux avalanches en Savoie, surtout si vous skiez près de la frontière italienne.
Dites-moi Virginie Fulpin, vous pensez que nous ne sommes pas seuls dans l'univers ?
J'espère qu'on n'est pas seul, on va se faire des amis, oui.
Il y a une chance quand même, on sera peut-être des amis, voilà, pourquoi pas. Sait-on jamais, c'était le journal de Virginie Fulpin, rendez-vous à 8h Virginie. La chasse aux niches fiscales est ouverte, gare aux hausses d'impôts déguisées, nous dira Étienne Lefebvre dans son édito écho dans un instant. Radio Classique, 7h08.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, job fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h09, l'édito de l'économie avec le journal Les Échos et Étienne Lefebvre. Bonjour Étienne.
Bonjour Marc.
Le gouvernement veut faire le ménage dans les niches fiscales.
Oui, la chasse aux niches est ouverte avec pour objectif côté Bercy de ramener plusieurs milliards d'euros dans le cadre d'un budget 2026 qui s'annonce très difficile à boucler. Alors, Amélie de Montchalin affiche ses ambitions. Il s'agit de supprimer des dizaines de dispositifs jugés inutile et injuste, car concentré sur un petit nombre de contribuables, raboter de 10% les quelques 500 niches fiscales, pourquoi pas, répond la ministre des Comptes Publics. Sur le papier, les arguments ne manquent pas, la fiscalité française est trop complexe, avec des taux faciaux élevés et une assiette mitée par de nombreuses réductions et exonérations. Le rendement dégagé pourrait même permettre, selon Bercy, de réduire les taux d'imposition.
C'est un pari risqué, selon vous, Étienne ?
La démarche pose en effet plusieurs problèmes. D'abord, cela va une fois de plus focaliser le débat sur les impôts, alors que le gouvernement s'est engagé à diminuer les dépenses pour trouver les 40 milliards nécessaires. Les syndicats et la gauche n'attendent que ça. Ce n'est pas le moment d'ouvrir la boîte de Pandore. Autre écueil, dans le cadre du dernier budget, le gouvernement a usé d'une grosse ficelle en classant les réductions de dépenses fiscales, les niches, dans la catégorie des économies, alors qu'au final, il s'agit bel et bien d'une hausse de prélèvements. Ce fut le cas en particulier du coup de rabot sur les allègements de charges des entreprises. Attention donc aux hausses d'impôts déguisées en économie. Dernier bémol, le rendement de cette chasse aux niches risque de s'avérer décevant, car soit Bercy vise effectivement des dispositifs peu utilisés et le gain sera marginal, soit ce sont des grosses niches telles que le crédit d'impôt recherche, les taux réduits de TVA ou les services à domicile. Mais alors les dégâts économiques seront importants. En conclusion, il vaudrait mieux ouvrir la chasse aux dépenses inefficaces.
L'édito éco d'Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonne journée Étienne et à demain. 7h11 sur Radio Classique. Tout de suite, l'essentiel de l'économie. Et elle a eu une conséquence de la guerre commerciale. L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, prévoit désormais un ralentissement du commerce mondial pour cette année, moins 0,2% dans le meilleur des cas, et jusqu'à 1,5% de baisse en cas de riposte généralisée, notamment de la part de l'Europe et des pays asiatiques. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie s'étend désormais à l'économie. Le patronat algérien annule sa visite, prévue aujourd'hui à Paris. Le Conseil du Renouveau Économique devait rencontrer le MEDEF, son équivalent français. 400 entreprises françaises sont implantées en Algérie. La Cour des comptes menace de ne pas certifier le budget de l'État si ses recommandations ne sont pas davantage prises en compte par le gouvernement. Pierre Moscovici, à la tête de l'institution, rappelle que les comptes de l'État ont systématiquement été certifiés avec des réserves très significatives depuis pratiquement 2 décennies. Enfin, la Banque Centrale Européenne doit annoncer aujourd'hui une nouvelle baisse de taux de 25 points de base pour stimuler l'activité économique. Sauf surprise, ce sera la 6e baisse consécutive et la 7e depuis le début du cycle de baisse en juin 2024. Dans un instant, les voix de l'économie, Emmanuel Guichard, délégué général du syndicat professionnel des entreprises cosmétiques, invité de Stéphane Pedrazzi.
Bonjour, c'est Élodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances ? Il était une fois une jeune fille appelée Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison, habitée par 77 nains.
Découvrez Blanche-Neige et les 77 nains, la nouvelle histoire en musique d'Élodie Fondacci. Un livre de David Ekali à retrouver aux éditions Talents Haut. Disponible pour la première fois en écoute binaurale sur toutes vos plateformes habituelles.
Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors, pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 7 ans maximum, avant de rembourser le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 7 ans. Comme pour Myriam, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h15, les voix de l'économie. Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, le directeur général de la FEBEA, le syndicat professionnel des entreprises cosmétiques.
Bonjour Emmanuel Guichard.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous suivez évidemment l'évolution de la guerre commerciale avec les États-Unis. 10% de droits de douane pour l'instant, potentiellement davantage dans quelques semaines à l'issue du moratoire de 90 jours qui a été annoncé par Donald Trump. Quelles peuvent être les conséquences pour l'industrie des cosmétiques ?
Mais les droits de douane américains auront nécessairement un impact sur l'industrie cosmétique française, car le marché américain représente 13% des exportations cosmétiques en 2024, ce qui représente plus de 3 milliards d'euros d'exportations pour la France.
Est-ce que les marques de cosmétiques ont la capacité d'absorber ces droits de douane de 10% et donc de ne pas augmenter leurs tarifs aux États-Unis ?
Alors, les prix aux États-Unis sont déjà relativement élevés. Il y a un sondage qui a été réalisé juste après les annonces par un magazine professionnel, Cosmetic Mag, et 60% des entreprises pensent qu'elles n'augmenteront pas leurs prix suite aux annonces de droits de douane.
En revanche, en cas de droit additionnel de 25%, là, ce sera sans doute plus compliqué.
Ça sera plus compliqué. À date, dans le même sondage, 75% des entreprises pensent qu'elles vont immédiatement rogner leurs marges. En plus, s'il y a une augmentation de droits de douane très importante, il va forcément y avoir une inflation et donc potentiellement une baisse de la consommation sur le marché américain au global.
Pendant très longtemps, on nous expliquait que le segment du luxe pouvait se permettre des hausses de tarifs parce que le prix n'est pas le principal critère de cette clientèle. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ?
Alors, la cosmétique, il y a un peu toutes les gammes de produits. Effectivement, il y a luxe, voire l'ultra-luxe. Mais ce que la France exporte en majorité, c'est plutôt du premium. Donc, ce sont des gammes de prix qui sont intermédiaires. Et sur ces gammes de prix, c'est quand même relativement compliqué de passer des hausses de tarifs, surtout après plusieurs années de hausse du fait de l'inflation sur les différents marchés.
L'Union européenne est plutôt sur une ligne dure en cas d'escalade avec les États-Unis. On a eu hier une liste de produits qui pourraient être visés par des droits de douane. Les acteurs des cosmétiques, eux, se sentent fragiles en cas de mesure de rétorsion. Vous me disiez, on s'est parlé avant cette interview, vous me disiez, on est un peu le petit cognac.
Oui, on a une forme de vulnérabilité importante côté secteur cosmétique, tout simplement parce que notre balance commerciale, elle est très favorable à l'Union européenne et très favorable à la France. La France, elle exporte 3 milliards d'euros de cosmétiques. On importe uniquement 1,5 milliard de cosmétiques américains en France. Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a une guerre commerciale, on a une forme de vulnérabilité.
Au-delà du marché américain, est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de désorganisation du commerce mondial ? Certains redoutent une déferlante de produits asiatiques sur le marché européen. Est-ce que ça peut potentiellement viser les cosmétiques ?
Alors, la première conséquence, effectivement, des droits de douane américains et surtout de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est surtout le dérèglement du commerce mondial. Sur tous les pays, il va y avoir une concurrence accrue, certes des produits chinois, mais nous, notre principale concurrence, c'est la Corée du Sud. Donc on va avoir une augmentation dans tous les pays de notre concurrence. Et c'est pour ça que notamment la réponse auprès de l'Union européenne, certes, la réponse à date de proportionnalité et d'éviter l'escalade est très bonne, mais il faut nécessairement une réponse sur la compétitivité européenne, parce que cette guerre, c'est avant tout une guerre économique.
Oui. Pareil que la Corée du Sud a une industrie cosmétique très développée, on l'appelle la K-Beauty. Les Sud-Coréennes se mettent jusqu'à 15 crèmes sur le visage tous les matins.
Oui, c'est la routine beauté coréenne.
C'est plus une routine, là.
Paraît-il, ça peut se faire en moins de 10 minutes. Donc, il y a des personnes très efficaces pour les soins. Oui, la Corée est surtout devenue un énorme exportateur. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'exportation de produits cosmétiques coréens. Maintenant, il y a plus de 10 milliards d'euros. Alors, la France reste leader puisqu'on a 23 milliards d'euros d'export. Mais c'est sûr que nous ne sommes plus tout seuls dans le monde à vendre des produits de beauté.
Alors, on va voir les choses du côté positif. La guerre commerciale peut entraîner un boycott des produits américains de la part de certains pays. Est-ce que ça veut dire, pour les industriels français des cosmétiques, qu'il y a des parts de marché à aller récupérer dans certains pays ?
Alors, il y a un jeu de chaises musicales qui va se produire partout dans le monde. La France est bien positionnée. La France est bien positionnée tout d'abord parce qu'il y a un boom du parfum partout dans le monde et que la France, on est vraiment le pays de la parfumerie, notamment avec la ville de Grasse, qui est le siège de la parfumerie mondiale. Et en plus, il y a un certain nombre de tendances sur lesquelles les Français sont très forts, bien sûr en termes d'innovation pour l'efficacité produit, pour le développement durable, parce que là, on a un peu l'impression que le développement durable s'est passé à la trappe, mais en fait, ça reste la demande principale de nos consommateurs partout dans le monde, même aux États-Unis.
On peut comprendre qu'on n'ait pas envie de se mettre des produits toxiques sur le visage.
Et exactement, et plus globalement, c'est qu'il y a effectivement une, une, une volonté de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin de la planète et des autres. C'est vraiment une tendance de fond. Et ça, les cosmétiques français sont très bien positionnés là-dessus. Et après, en France, on est aussi très fort sur deux autres segments, qui est le soin capillaire, qui progresse beaucoup, et tout ce qui va être lié à la pharmacie, à la parapharmacie, où la France est aussi leader.
En matière de chaîne logistique de l'industrie européenne des cosmétiques, 90% du sourcing est européen, c'est-à-dire que les ingrédients viennent de l'Union européenne, mais certains ne sont pas remplaçables. On ne peut pas, par exemple, récupérer, se procurer de la vanille produite en Europe.
Alors effectivement, suite au Covid, une grande étude avait été réalisée pour savoir quelle était la vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Il en ressort que 90% du sourcing est européen, mais beaucoup d'ingrédients, notamment les ingrédients naturels, hein, pour faire du parfum, il faut du vétiver, il faut du bois de santal, et toutes ces matières premières sont sourcées en dehors de l'Union européenne, ce qui fait qu'en cas de dérèglement, notamment des chaînes logistiques mondiales, effectivement, on pourrait être impacté. Et pour répondre à ça, c'est notamment un travail en direct avec les producteurs dans les pays.
La question que se posent beaucoup d'industriels est celle d'aller ou pas produire aux États-Unis. Quand on vend des produits français, qu'on vend aussi du rêve dans les cosmétiques, est-ce qu'on peut aller produire aux États-Unis et estampiller le produit Paris ?
Non, ça on ne peut pas faire. Habituellement, on ne ment pas aux consommateurs, c'est-à-dire un produit qui est commercialisé sous un marketing américain et la plupart du temps fabriqué aux États-Unis, et un produit qui est vendu avec l'image de la France et le soft power français et produit en France. Par contre, la question effectivement de l'investissement, nous on est une industrie globale, c'est-à-dire qu'on vend des produits partout dans le monde. À date, les États-Unis n'ont pas mis de mesures de rétorsion. Le reste du monde n'a pas mis beaucoup de mesures de rétorsion sur les États-Unis. Si le reste du monde mettait des mesures de rétorsion sur les États-Unis, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à produire aux États-Unis, parce que finalement, certes, pour le marché américain, il n'y aurait pas de droits de douane, mais il y en aurait pour tous les autres pays vers lesquels on exporte.
J'aimerais qu'on termine par une tendance, c'est le développement des dupes. Vous savez, ces produits qui ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait des copies. Et ça, c'est une menace pour votre industrie.
Oui, la contrefaçon a toujours été une menace pour l'industrie.
Mais là, est-ce que c'est une contrefaçon ?
Oui, les dupes pour nous, c'est de la contrefaçon à l'ère digitale. Donc, c'est-à-dire que ce sont à travers les réseaux sociaux et surtout les influenceurs qu'il y a de nouvelles formes de copies et de nouvelles formes de contrefaçon qui sont en train d'arriver. Oui, c'est de la contrefaçon. Ce qui est sûr, c'est que comme on est face à des nouveaux acteurs à travers notamment des plateformes de réseaux sociaux, on est face à des réseaux qui sont organisés de façon différente et qui sont donc un peu plus difficiles à les toucher, notamment au niveau juridique.
Merci beaucoup. Emmanuel Guichard, délégué général de la FEBEA, la Fédération des entreprises de la beauté. Marc Bourreau se lève tous les matins à 2h. Maintenant, j'ai compris, le temps de se mettre 15 crèmes sur le visage.
Écoutez, moi, je reste
sud-coréenne.
Je reste au naturel, moi, Stéphane. Tout comme vous, peut-être. 15 crèmes le matin, sait-on jamais. On vous retrouve demain dès 6h.
Il faut bien s'occuper jusqu'à la prise d'antenne.
Mais évidemment, évidemment. On vous retrouve demain dès 6h pour votre matinale d'économie. Dans 2 minutes, les consulats algériens en France sous surveillance dans les coulisses de la politique de Marcelo Westfred. Avant cela, le bon usage avec Karine Dijoux. Bonjour Karine.
Bonjour Marc.
Alors aujourd'hui, les orthographes doubles.
Oui, voici une liste de mots pour lesquels 2 orthographes sont possibles.
La clé.
Oui, la clé, on peut le voir avec un F à la fin, oui, ou avec un accent aigu. Le mot clé vient du latin clavis, qui signifie tout simplement la clé. Le V latin est devenu un F en français, c'est ainsi que le mot clé avec un F apparaît en 1080. Et la graphie clé, on pense qu'elle est plus récente. Eh bien non, elle date de 1121, la graphie avec un accent aigu. Mmh. Elle est due à un ancien pluriel, alors là c'est un petit peu de linguistique, accrochez-vous. Ça s'écrivait clé avec un Z et clé avec un S. Et le F final avait disparu à ce moment-là. Quand on a voulu rétablir le mot au singulier, on a donc omis le F également. C'est comme ça qu'il a disparu dans certaines graphies.
D'accord.
Aujourd'hui, les deux graphies coexistent. Certains préfèrent l'écrire avec un F pour mettre en avant l'étymologie, mais la graphie la plus fréquente, on le sait, c'est clé avec un E accent aigu. C'est celle qui figure dans tous les exemples du dictionnaire Le Petit Robert. Le mot clé avec un F, en revanche, est surtout utilisé dans le domaine musical, par exemple la clé de sol.
La fameuse clé de sol. Bistrot
santé ou bistrot avec un thé?
Eh bien, dans ce cas, également, les deux graphies sont apparues à peu près à la même époque, à la fin du 19e siècle. En 1880, on disait « chez le bistrot » pour dire « dans un café populaire ». Pourquoi? Parce que le terme bistrot désignait d'abord le tenancier du café. Son étymologie est floue, mais la version la plus vraisemblable est qu'il serait issu de l'argot parisien. Il s'agirait d'un croisement entre « mastroquet » et bistingo, le bistingo étant un petit restaurant.
Mais d'où viendrait ce thé final, Karine?
Alors, il serait apparu lors du passage du mot bistrot dans la langue populaire, par analogie avec la finale d'autres mots.
Cuillère ou cuillet et cuillère, oui, c'est deux orthographes pas tout à fait pareilles.
Oui. Ce mot a connu de nombreuses formes d'ailleurs. Cullier, C-U-L-I-E-R, coller, cuiller, puis cuillère, donc je l'épelle C-U-I-2-L-E-R, oui. Et le cuillère qu'on connaît, E accent grave R-E à la fin. Ces deux graphies perdurent, même si la première, cuillère, sans accent grave et sans E final, est nettement en perte de vitesse et risque de disparaître.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Karine. On vous retrouve demain. Bonne journée.
Merci, à demain.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez Comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h26, les coulisses de la politique avec Marcelo Vesfred du journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, bonjour Marcelo.
Bonjour Marc.
Ils sont au cœur de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Les consulats algériens en France, le gouvernement les observe de très très près.
Oui, figurez-vous qu'il y en a 18 en France, oui, dont 5 rien qu'en région parisienne, Paris, Créteil, Pontoise, Nanterre, Bobigny. Et bientôt, deux autres vont ouvrir, dont un à Melun. En tout, 600 personnels s'occupent des papiers d'identité de la plus grande communauté étrangère en France. Seulement, les autorités françaises les ont dans le collimateur, ces consulats, d'abord parce qu'ils traînent souvent des pieds quand il s'agit de délivrer des laissez-passer consulaires pour expulser des OQTF. Ensuite, parce que les voilà au centre de plusieurs affaires récentes.
Lesquelles, Marcelo ?
Alors déjà, la semaine dernière, un agent du consulat de Créteil a été mis en examen pour enlèvement et lui est reproché de s'en être pris avec deux autres individus, un opposant au régime d'Alger exilé en France. C'est cette mise en examen qui a mis le feu aux poudres entre les deux pays. L'Algérie considère qu'on a voulu l'humilier, qu'on n'a pas respecté l'immunité consulaire. Résultat, vous l'avez suivi ces derniers jours, Alger a expulsé 12 personnes de l'ambassade de France. Et à son tour, Paris est en train d'expulser 12 agents consulaires algériens. Il y a aussi cette histoire d'espionnage, elle remonte à décembre dernier. Un employé de Bercy a été mis en examen, on l'a soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles sur des opposants à un contact au consulat de Créteil, encore ce consulat.
Et donc ces consulats, Marcelo, ne font pas que de l'administratif, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, un diplomate le confie hors micro, ces consulats, ils s'occupent de contrer aussi des influenceurs anti-régime résidant en France. C'était le cas avant la présidentielle algérienne l'été dernier. Et à l'inverse, ils mobilisent leurs propres influenceurs favorables au régime. Ils font du renseignement. Fin de citation. Du coup, certains experts militent pour un geste fort comme la fermeture des deux consulats qui sont en cours d'installation. Ces consulats ont obtenu l'agrément du ministère de l'Intérieur en octobre 2022 dans la foulée d'une visite officielle d'Elisabeth Borne à Alger. C'était l'époque où les deux pays se rapprochaient. Ce genre d'ouverture de consulat, dit un conseiller du gouvernement, ça fait partie d'un package global, un accord donnant-donnant sur fond de renseignements, d'échanges consulaires qui se négocient au niveau de l'Élysée, fin de citation. Pour l'instant, la présidence de la République, qu'on a contactée hier, ne compte pas revenir sur ses choix, mais comme l'escalade n'est pas à écarter, il n'est pas impossible qu'on entende à nouveau parler de ces consulats aussi nombreux qu'opaques.
Les coulisses de la politique, comme chaque matin, avec Marcelo Vesfred du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. À demain, bonne journée, Marcelo. 7h28 sur Radio Classique. Et bonjour Charles Bonner.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
C'est lumineux à l'ouest, nuageux à l'est.
Lumineux avec une alternance de nuages et d'éclaircies, mais au sec, contrairement aux régions de l'Alsace à la Corse. La Corse d'ailleurs en vigilance orange, pluie, inondation, la Savoie pour des risques d'avalanche. Les températures 15 à Lille et Nantes, 11 à Lyon et 15 à Nice.
Invivo présente l'innovation agricole en question. Fabrice Lundy.
Bien réussir la transition agricole et alimentaire au service de la société. Invivo, le premier groupe coopératif français, le prouve chaque jour. Constance de Gourcuff, vous êtes la directrice de la communication interne et présidente du comité de mission. C'est un engagement de tous les instants.
Cet engagement, il se traduit chaque jour par des actions dans tous nos métiers qui bénéficient aux agriculteurs, aux consommateurs et à l'environnement. Invivo a franchi un cap en devenant société à mission en 2020, renforçant ainsi son engagement à mettre son modèle économique au service de la transition agricole et alimentaire. On était déjà porteur de cet ADN de l'intérêt collectif de par nos origines et notre histoire coopérative. Le comité de mission, qui joue un rôle clé en évaluant l'impact de ses actions, contribue à éclairer la gouvernance du groupe dans ses orientations et lui permet de garder le cap de sa mission.
Merci Constance de Gourcuff.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo, s'engage pour la transition agricole et alimentaire. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et à 7h30, le journal avec Charles Bonner.
Avec à la une ce matin, l'or au plus haut, valeur refuge dans un monde économique instable et qui attise l'intérêt des vendeurs et des acheteurs. L'Iran n'est pas loin d'avoir la bombe nucléaire. Pour l'en empêcher, les États-Unis reprennent les négociations. Et puis dans le grand bain des offres de gaz et d'électricité, un guide est publié ce matin pour s'y retrouver.
À suivre, le président chinois en Asie du Sud-Est, comme un pied de nez aux États-Unis dans l'écho du monde de Nicolas Tenzer. À la une, Charles, à plus de 3 300 $ l'once, l'or continue de battre des records.
La hausse est continue depuis plusieurs semaines. Depuis que Donald Trump a mis l'économie internationale dans l'incertitude, l'or, 3 350 $ l'once ce matin, valeur refuge par excellence et qui attire donc à la fois les vendeurs et les acheteurs, Nina Valette.
Devant la vitrine Joubert, magasin spécialisé dans l'or à Paris, Jean-Marc regarde les pièces brillantes exposées.
C'est Louis d'or, là, c'est Napoléon. C'est des choses comme ça que j'ai.
Ce Parisien se renseigne pour investir, surtout en ce moment.
Actuellement, c'est le chaos le plus total. Grâce à Trump, vous avez une volatilité totale des marchés. Donc, c'est juste une catastrophe pour les gens qui ont des placements financiers standards en actions. Alors que l'or, c'est le super père de famille. C'est la Jeep tout-terrain, quoi. Si vraiment je suis amené à vendre une pièce, c'est que vraiment tout va très très mal et que je suis. Non, je ne vendrai jamais.
Une stratégie plutôt judicieuse pour Daniel Blin. C'est le responsable de la société Joubert que j'ai rencontré hier matin à quelques mètres de ses bureaux.
À l'instant T où on se parle, donc, l'or est au plus haut de tous les temps. L'once d'or donc, est actuellement à 3 300 $ l'once, donc on n'a jamais vu ça. En 2008, on était à 8 000-9 000 € le kilo d'or. On est à 93 000, donc 17 ans après. On ne pensait pas qu'on allait arriver jusqu'à 93 000 euros, mais on se dit l'or peut arriver à 100 000 euros.
Pour ces spécialistes, si votre budget ne vous permet pas d'investir dans l'or, l'alternative, c'est l'argent, plus abordable et avec un avenir tout aussi prometteur.
Le reportage de Nina Valette, les droits de douane qui vont faire baisser le commerce mondial selon l'OMC, un recul entre 0,2 et 1,5% cette année. La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni est à Washington aujourd'hui pour discuter de ces droits de douane, toujours fixés à 10% pour l'Europe.
7h32 sur Radio Classique, des discussions sur l'Ukraine ont lieu à Paris aujourd'hui.
Et c'est à l'Elysée où Emmanuel Macron reçoit deux diplomates américains, dont le principal, le secrétaire d'État Marco Rubio, et l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Discussions jusque-là menées sans l'Europe, mais qui n'ont pas abouti à de cessez-le-feu. Autre dossier abordé aujourd'hui, celui du nucléaire iranien. Alors que dans le journal Le Monde, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, économique Raphaël Grossi estime que l'Iran est proche de posséder l'arme nucléaire. Des discussions ont repris. Une nouvelle réunion a lieu samedi avec Oman comme intermédiaire, Servan de Pastre.
L'Iran n'arrêtera pas d'enrichir son uranium et ce n'est pas négociable selon Téhéran. La ligne rouge est fixée alors que les États-Unis durcissent le ton. Ce mardi, Steve Witkoff a réclamé l'arrêt complet des programmes d'enrichissement de l'uranium en Iran, condition selon lui pour garantir la paix et la stabilité dans la région. L'émissaire américain redoute une utilisation militaire de l'énergie atomique alors que les capacités d'enrichissement de l'Iran se sont fortement accélérées ces dernières années. L'uranium est désormais enrichi à 60% selon les données officielles iraniennes, peut-être même plus selon certains observateurs, dont les États-Unis. C'est en tout cas bien au-delà des 3,7% autorisés par l'accord de 2015 sur le nucléaire. Ses capacités, Téhéran se dit prête à les limiter, mais pas question d'un arrêt complet. Trump veut un accord, il n'aura pas d'autre choix que de transiger, estime Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'IFRI. De nouvelles négociations sont prévues ce samedi à Rome.
Emmanuel Macron en déplacement dans l'océan Indien à partir de lundi. D'abord à Mayotte pour un point sur la reconstruction de l'archipel détruit par le cyclone Chido en décembre. Les autres étapes, la Réunion, l'île Maurice et Madagascar. Emmanuel Macron qui réagissait hier aux attaques de prison promettant l'arrestation, le jugement et la punition des auteurs de ces tags et incendies de voitures une nouvelle fois hier. Des attaques revendiquées par un groupe inconnu de défense des prisonniers, mais qui se cache derrière une mouvance anarchiste ou plutôt l'influence des narcotrafiquants. Joachim Pueyo est maire d'Alençon, ancien directeur d'administration pénitentiaire.
On peut penser que c'est peut-être une réponse à la politique pénale du garde des Sceaux lorsqu'il a pris la décision effectivement d'écarter les narcotrafiquants les plus dangereux avec des conditions de détention plus difficile. Il y a un sujet de sécurité qui se pose là de manière très urgente. Ce genre d'attaque, c'est pour intimider, bien évidemment. C'est une action coordonnée d'une ampleur quand même qu'il ne faut pas prendre à la légère. Hein. Et ça me fait penser d'ailleurs à des actions qu'on a pu observer compte tenu de l'ampleur du narcotrafic dans certains pays d'Amérique du Sud.
Un propos recueilli par Charles Ducrot.
Et je vous rappelle mon invité à 8h15, le journaliste spécialiste des questions de sécurité Frédéric Ploquin, pour revenir sur cette situation dans les prisons.
Les médecins et les internes en grève. Un appel est lancé à partir du 28 avril. Une grève illimitée pour s'opposer à une proposition de loi qui régule l'installation des médecins. L'article en question a été voté par l'Assemblée nationale, mais l'examen du texte n'est pas terminé. Il reprend début mai. C'est un poste où il est possible de faire des économies à condition de s'y retrouver. Les contrats de gaz et d'électricité. Le magazine 60 millions de consommateurs publie ce matin un numéro spécial. Une analyse d'une centaine d'offres, Nina Droff, alors que les prix reculent.
Actuellement, le tarif réglementé de vente de l'électricité est en baisse. Depuis le 1er février, il a chuté de 15%. L'opportunité, selon le magazine, de faire des économies. Pour bien choisir, il faut s'intéresser au mécanisme d'évolution des prix du contrat. À un moment où le tarif réglementé est en baisse, il peut être avantageux d'opter pour une offre indexée sur ce tarif. Certaines offres proposent même des prix inférieurs au tarif réglementé, jusqu'à 7% moins cher, par exemple, pour le contrat Online et Green de Mint Energy. Il faut aussi être attentif aux différentes options proposées par les fournisseurs. Par exemple, l'option heure creuse peut être bénéfique pour certains ménages. Un certain nombre de contrats d'électricité verte proposent également des tarifs très compétitif actuellement.
Et Nina, pour le gaz, quels sont les conseils du magazine ?
Les perspectives sont moins optimistes, le prix repère du gaz ne cesse d'augmenter et risque de ne pas baisser avant un certain temps. Mais une vingtaine de contrats proposent tout de même des tarifs en dessous de cet indicateur, comme l'offre GazZen d'Alterna ou Avantage Gaz EDF, qui peuvent permettre aux gros consommateurs d'économiser jusqu'à 200 euros par an. Là aussi, il faut bien étudier les différents types d'abonnements. Les contrats à prix fixe longue durée sont actuellement les moins onéreux à l'année. Mais attention, le tarif peut quand même augmenter avec une éventuelle hausse des taxes ou des coûts d'acheminement. Pour le gaz comme pour l'électricité, il ne faut donc pas hésiter à changer de fournisseur, selon 60 millions de consommateurs. Pour les particuliers, il n'y a pas de frais de résiliation ni d'engagement. Il suffit de souscrire à une nouvelle offre et c'est le nouveau fournisseur qui se chargera de la résiliation.
L'éclairage de Nina Droff.
Et c'était le journal de Charles Bonner. Merci Charles, on se retrouve à 8h30 dans un instant. L'écho du monde, Nicolas Tenzer nous raconte l'offensive de charme du président chinois en Asie du Sud-Est. 7h37 sur Radio Classique.
Toyota.
Occasion.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans.
Arrête.
Arrête.
Chute.
Chute.
En ce moment, pendant les occasions ou jamais, Toyota Occasion double sa garantie. 6 ans au lieu de 3 sur tous les véhicules Toyota, y compris les modèles hybrides.
Y compris les modèles hybrides.
Toyota Occasion. Offre réservée aux particuliers du 1er avril au 10 mai sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau Toyota participant.
Toyota participant.
Oh, la fatigue. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Carrefour. Quand vous me dites, j'ai prévu 2 paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir. Eh bien, je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 22 avril au 4 mai. Modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Retrouvez Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia.
Et si nous partions à la rencontre des Bretons ? Explorateurs, artistes, combattants, entrepreneurs. Depuis 1500 ans, leur audace, leurs engagements, mais aussi leur créativité ont conquis la France. Une histoire qui ne manque pas de sel.
Votre magazine Historia, en vente chaque mois chez votre marchand de journaux.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h39, l'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Les droits de douane de 145% imposés par Donald Trump à la Chine ont eu un effet inattendu. Xi Jinping a entamé il y a quelques jours une visite dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Est-ce une manière à droite, Nicolas, de répondre à Washington ?
C'est surtout une façon pour le président chinois de renforcer ses liens avec des pays qui, à des degrés divers, sont déjà ultra dépendants de la Chine. Avec la Malaisie, qui a depuis 2009, Pékin comme premier partenaire commercial. Il est en terrain conquis, même si Kuala Lumpur vend surtout aux États-Unis. Des droits de douane annoncés de 24% ont fait le reste. Au Vietnam, avec lequel Washington avait renoué commercialement dès 1994 et qui avait signé en 2023 un partenariat stratégique global après avoir levé en 2016 les restrictions aux ventes d'armes, la visite de Xi Jinping est un tournant compte tenu des relations dégradé entre les deux pays. Le contentieux sur les îles disputées de Spratleys semble presque oublié. Le Cambodge est, lui, depuis longtemps dans l'orbite de Pékin. D'ores et déjà, on peut s'attendre à une offensive de charme chinoise en Indonésie et ailleurs. Japon, Corée du Sud, alliés des États-Unis, et Chine paraissent résolus à affronter ensemble désormais la guerre commerciale livrée par Trump, comme en témoigne la rencontre des ministres des trois pays à Séoul le 30 mars dernier.
Alors c'est la question cruciale, hein, Nicolas. La Chine pourrait sortir gagnante de son match avec les États-Unis ?
Sur le plan commercial, c'est encore difficile à dire.
Ouais.
S'ils sont maintenus, les droits de douane américains pèseront sur l'économie chinoise qui exporte massivement vers les États-Unis. Pour la Chine, la guerre commerciale est une guerre tout court. Mais Pékin, comme l'a montré sa décision de cesser les achats de Boeing, montre qu'elle dispose de moyens de riposte. En termes de soft power, Trump renforce Pékin. Il lui est aisé de plaider pour le libre-échange, l'ouverture des frontières, la prévisibilité des relations économiques et le multilatéralisme, faisant oublier ses entraves au bon fonctionnement de l'OMC. Alors que de nombreux pays en Asie centrale et du Sud-Est, mais aussi en Afrique et en Amérique latine, souhaitaient prendre la voie d'une émancipation progressive vis-à-vis de la Chine en raison du poids de ses investissements et de leur dépendance économique, Xi Jinping réussit à faire oublier qu'il est plus menaçant que les États-Unis. Cela permet de reléguer au second plan ses revendications territoriales en mer de Chine du Sud, ses ambitions sur Taïwan, sa répression à Hong Kong, au Tibet, dans le Xinjiang. Trump finalement normalise la dictature chinoise, il entend le faire avec la Russie. Xi Jinping lui dit merci.
Les pays européens doivent-ils à leur tour se tourner vers Pékin pour contrer la disruption engagée par Trump ?
Ce serait dangereux. Oui. On se souvient que certains, avant la guerre totale russe contre l'Ukraine, voulaient prendre le chemin de Moscou pour contrer la Chine. Après 2022, même politique de gribouille, ils ont voulu se tourner vers Pékin pour faire contrepoids à la Russie, alors même que les deux pays poursuivent le même but de destruction de l'ordre et du droit internationaux. La Chine aide Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine en lui fournissant composants à usage dual, voire armes, peut-être soldats, comme l'a montré la capture de combattants chinois par les Ukrainiens. Il serait absurde d'abandonner la stratégie de de-risking mise en place par Ursula von der Leyen. Pékin est aussi une menace pour l'accès aux matériaux critiques dont l'Europe a besoin. Les droits de douane américains ne doivent pas conduire l'Europe à ouvrir encore plus leur marché aux produits chinois. Au contraire, devant une Russie, une Chine et une Amérique révisionniste, les Européens doivent affirmer leur voix spécifique en termes de vision de l'ordre international et de principes. Il leur faut aussi aider beaucoup plus les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui cherchent à se soustraire à la dépendance envers ces pays. L'Europe ne deviendra pas une puissance en s'alliant avec la Chine.
L'écho du monde avec Nicolas Tenzer, comme tous les matins cette semaine. À demain, Nicolas. Dans un instant, Augustin Lefebvre nous donne rendez-vous au comptoir, le bar PMU, bien plus qu'un simple lieu populaire dans le journal imprévisible. Radio Classique, 7h44.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170€ par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2 500€ pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril, c'est acceptation crédit par. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayoud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservé dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Trois lettres ce matin dans votre journal imprévisible. P, M et U, les bars PMU seraient en train de connaître un retour en grâce.
Les baltos, les cafés des sports, de la gare et autres sulky, on recense deux études sociologiques récentes, des critiques du guide branché Le Fooding et même un collectif parisien qui organise des soirées techno dans les PMU. Pourtant, dans les années 90, ce n'était pas gagné, comme en témoignait ce gérant.
Ce qui nous manque au PMU, moi je pense, c'est sensibiliser une clientèle jeune. Parce que la clientèle PMU vieillit, il y a beaucoup plus de personnes âgées qui jouent au PMU plutôt que des jeunes. Les jeunes ne sont pas trop branchés courts.
Le PMU, c'est ce bar sans prétention, dans son jus, dans lequel on retrouve les habitués, zingues et sachets de sucre par terre, dans lequel aussi on peut parier sur les courses de chevaux en rêvant d'un miracle qui se produit seulement au cinéma.
Eh hey, dis donc, il les a tous marqués.
Qu'est-ce qu'il a marqué?
Eh ben quoi, les gagnants d'hier et ceux d'avant-hier, Jamaïco, Jonquille, Trompette Major, tous dans les boules.
Oh, ne vous montez pas la tête, les gars.
C'est juste un tube qui note les résultats.
Après le coup, c'est facile.
Salam Alek, il l'avait donné avant.
Et oui, on note la beauté poétique des noms de chevaux. Oui. Ça, c'est trois hommes et un cheval en 69. La
trompette
même année.
Major, Trompette Major. Oui.
Exactement. La même année, il y a les gros malins sur le même principe.
Que se passe-t-il?
Un miracle. Mon mari a eu une vision cette nuit. Il a rêvé des gagnants du tiercé d'aujourd'hui. Du 2, du 7 et du 9.
Le 2 ? Ouh, le 2, c'est adagio.
Un cheval qui tourne pas à droite. Et le 7 ?
Ah ben le 7, il est chouette celui-là. C'est triple patte.
Il faudrait mieux d'en avoir 4.
Et le 9, c'est d'air de nerf. Un tocard qui a pas volé son nom.
Deux films de la fin des années 60, c'est l'âge d'or du pari hippique, souvent perdant pour le joueur malgré ses encouragements, résumé d'Henri Salvador.
Tous les dimanches,
dimanches, tous les dimanches, on se bouscule dans les cafés pour faire son petit tiercé. Sportifs en chambre, faut les entendre et les voir gigoter devant la télé. Allez, 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 France. Allez, mets le paquet, tu dois gagner.
On ne parle pas que de chevaux, visiblement, au PMU.
Non, non, pas tout à fait, pas tout à fait. Bon, ça, c'est les exemples. Enfin, s'il n'y a pas eu de film impérissable oui. au cinéma, donc sur le PMU, mais là, la chanson française, eh bien, ça permet d'en retracer l'histoire. En 1941, Maurice Chevalier en fait un symbole de notre pays.
Le PMU qui ferme avant midi, oh là là, oh là, ça sent si bon la France. Le petit bar.
Même chose pour Serge Reggiani en 75. Oui. Ce natif d'Italie met le PMU sur le même plan que le PSG et Sheila, il ne manque que la Tour Eiffel.
Pourtant, je joue au PMU, Sheila chante et je suis ému. Je vais voir Paris Saint-Germain et j'ai un faible pour Bobin. Je suis pas chauvin.
Et on retrouve le PMU évidemment dans le décor des chansons de Dutronc.
Plein de petits bébés dans ce bar. C'était plutôt jeune donc à l'époque.
C'est
hein,
chez ça, le monde à l'envers du président Dagobert. Bon, ce côté franchouillard, il faut dire qu'il agace un peu, hein, notamment Renaud qui dézingue le tiercé dans sa chanson au vitriol Hexagone.
La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance.
Aujourd'hui, c'est chez les rappeurs qu'on retrouve les PMU. Ils se sont appropriés ces lieux des quartiers populaires. Quelques exemples chez les plus grands publics, hein, je vous épargne les plus violents. Orelsan dans la lignée de Renaud.
Le monde est un PMU, où n'importe qui donne son mauvais point de vue, où la télé passe des infos déjà vues, pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer, j'essaye de fitter.
Ce n'est plus Maurice Chevalier. Hein.
Non, non, tout à fait, mais cette époque évoquée par Maurice Chevalier, eh bien, elle nourrit une certaine nostalgie oui. qu'on retrouve chez les confrères d'Orelsan, par exemple MC Solar.
J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès, au café PMU, c'était plus Pierrette Presse. Je parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague.
Les temps changent, dit MC Solar, quand les jeunes Big Flo et Oli citent les PMU dans les révocations nostalgiques de Toulouse.
Y'a nos tontons au PMU qui attendent même plus le tirage. Je trinque avec Brice Taton à la buvette du virage. Et même quand on tourne la page, normal qu'on s'y attache. Y'a ceux qui s'imaginent la plage à la piscine Nakache. Ici on se sent bien.
Dernière occurrence, en 2017, on sort du rap pour le jeune groupe de Cold Wave Gwendoline qui fait des PMU un lieu de rendez-vous pour s'échapper d'une modernité dans laquelle ils ne se reconnaissent plus. En 8 minutes. Hein,
oui, ils sont
vous
quasiment
arrivés,
c'est ce que j'allais vous dire.
Noté, Marc. Bon, malgré la disparition des bars et des bistrots depuis les années 60, eh bien, ces PMU sont des repères, écrit le sociologue Jérôme Fourquet dans le rapport de la Fondation Jean Jaurès qui vient de paraître. Et des repères, certains voudraient en faire des thermomètres de l'opinion.
Il a commandé un café, il a pris un grattage. Comme un client normal.
Ce « il » qui n'est pas un client normal, c'est Emmanuel Macron. Le président s'est rendu dans un bar il y a un mois. Déjà, en 2017 et 2018, il était passé derrière le comptoir dans le Pas-de-Calais.
Dites-moi les choses, hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
La dernière fois, il y avait plus de questions.
Ah oui, hein. Ils sont intimidés, là. Oui. Alors vas-y, à la vôtre, hein, déjà. Je fais ma tournée.
Café pour tout le monde, donc si j'ai
café
bien compris.
Café pour tout le monde. Bon, tout ça fait les affaires hein, de l'entreprise PMU qui cherche à élargir sa clientèle en montant en gamme. Elle a lancé de nouveaux établissements l'année dernière. Présentation du directeur artistique du PMU sur la chaîne Equidia.
On va chercher dans les inspirations art déco des années folles parisiennes qui rappellent l'esprit des brasseries et en même temps quelque chose de très ouvert et très populaire. Parce qu'évidemment, ce concept de Paris mutuel urbain, c'est une sorte de montée en gamme pour le PMU, pour les centres-villes, clairement. Mais en même temps, on ne renie pas du tout nos racines populaires.
Il faut que tout change pour que rien ne change, donc. Nina Simone, pour conclure, car le saviez-vous, Marc, si tant de bars en France s'appellent le Balto, c'est à cause de la marque de cigarettes éponyme, ah oui, née aux États-Unis à Baltimore. La voix de Nina Simone, mais aussi celle de Renaud, toute la musique, a chanté aussi le PMU dans ce journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Augustin, on vous retrouve à 8h30 pour la revue de presse. Dans un instant, quand la star américaine de l'intelligence artificielle fait les frais du bras de fer entre les États-Unis et la Chine, le décryptage écho de François Vidal, Radio Classique, 7h53.
Vous en avez assez de dire non à votre enfant ? J'ai la solution. Dites-lui oui. Oui à tout. Oui, mon amour, tu peux choisir l'atelier peinture, dessin ou éveil musical. Oui, vas-y, fais de la mosaïque, de l'aquarelle ou même du modelage. Oui. Et oui, pendant les vacances, c'est l'opération Vive les couleurs chez Cultura, avec 20 000 ateliers gratuits pour éveiller vos enfants à l'art et à la culture. Inscrivez-vous dès maintenant sur cultura.com. Offre réservée aux membres Culture Addict, voire conditions en magasin et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h54, le décryptage écho avec François Vidal ce matin. Bonjour François.
Bonjour Marc.
Mauvaise nouvelle pour Nvidia, la star mondiale de l'intelligence artificielle. La Maison Blanche lui a interdit de vendre ses microprocesseurs à la Chine.
Oui, c'est un coup très dur que Donald Trump vient de porter aux fabricants des puces électroniques au cœur de la révolution de l'IA. L'impact immédiat, c'est une perte sèche de quelques 5 milliards de dollars sur les processeurs destinés aux entreprises chinoises et qui vont désormais partir au pilon. À plus long terme, ce sont des dizaines de milliards de revenus et de profits qui s'envolent en fumée. Pas de quoi mettre sur la paille une entreprise qui a fait 130 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier et affiche une marge brute himalayenne de 75%. Mais assez pour plomber son cours de bourse. Hier, son action a perdu près de 7%, ce qui porte à plus de 500 milliards le recul de sa valeur depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
La société californienne avait pourtant tout fait, François, pour passer entre les gouttes de cette guerre commerciale.
Oui, depuis quelques semaines, Jensen Huang, son charismatique patron avait en effet lancé une opération séduction XXL. Début avril, l'homme vêtu d'un éternel blouson de cuir noir avait ainsi participé à un dîner très select à Mar-a-Lago, un dîner à 1 million de dollars le couvert pour pouvoir s'entretenir avec le leader de MAGA. Mieux, lundi, il annonçait prévoir 500 milliards de dollars d'investissement en Arizona et au Texas d'ici à 2030. Surtout, depuis deux ans, Nvidia avait pris soin de ne plus vendre à Pékin ses puces les plus récentes pour ne pas s'exposer précisément à des sanctions. Résultat, les processeurs H20, dont l'exportation vers la Chine vient d'être interdite, sont 75% moins performants que les fameux H100 qui peuplent désormais les data centers dédiés à ChatGPT, Mistral et consorts. Mais cela n'aura pas suffi. Pour une raison simple, Marc, c'est que la guerre déclenchée par Donald Trump est entrée dans une nouvelle dimension.
Il s'agit désormais d'une guerre technologique.
Oui, absolument. Dans le bras de fer qui s'est engagé entre les deux rives du Pacifique, le volet commercial n'est qu'un des nombreux sujets de friction. Pour la Maison-Blanche, l'objectif est aussi, entre autres, de limiter les ambitions de Pékin dans le développement de l'intelligence artificielle. L'onde de choc provoquée par l'émergence soudaine fin janvier de DeepSeek, cette start-up d'IA chinoise sortie de nulle part et capable de rivaliser avec les applications de ses rivaux américains, a laissé des traces. En imposant un embargo sur les puces Nvidia, Washington marque un point. Mais nul doute que les géants de la tech chinoise vont rapidement développer leurs propres solutions. En fait, nous sommes en train d'assister au découplage des deux premières économies mondiales, un phénomène aux conséquences majeures pour nous tous, et de sanctions en représailles, personne ne sait vraiment où cela va nous mener.
Et on continuera de voir tout cela, évidemment, le décryptage écho de François Vidal ce matin. Bonne journée François,
bonne journée,
et à demain 7h57, c'est l'heure du Point du jour avec Franck Ferrand.
Bonjour Franck.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Nous sommes aujourd'hui le 17 avril, est-ce que cela vous dit quelque chose?
Oui, ça me ramène au 17 avril 1970, oui. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'en parler un certain nombre de fois, c'est le jour où le monde a retenu son souffle en attendant des nouvelles de la mission Apollo 13. Vous savez que l'année d'avant, en 69, c'était Apollo 11, le premier homme sur la Lune, etc. Puis a suivi Apollo 12 sans encombre, et puis cette mission Apollo 13, sauf que cette fois tout est allé complètement de travers.
Et des ennuis qui commencent dès le décollage, Franck.
Dès le décollage avec l'arrêt d'un des moteurs de la fusée, heureusement compensé par les autres moteurs, mais ça s'est pas arrêté là. Le lendemain, alors que le vaisseau filait à plus de 300 000 km de la Terre, un réservoir d'oxygène a explosé. L'équipage ne se rend pas compte tout de suite de ce qui se passe, mais la situation est dramatique. L'accident remet en cause l'approvisionnement en oxygène et en eau de tout l'équipage. Alors, avec un calme extraordinaire, Jack Swigert aimait par radio cette phrase qui est devenue très, très célèbre. Houston, we've had a problem.
Vous le faites très bien.
Vous avez remarqué que j'ai un peu hésité parce que ça a été tellement bien fait sur le grand écran. Bon, bref, le problème est majeur. L'équipage va se réfugier dans le module lunaire, qui n'a pas du tout été conçu pour accueillir 3 passagers. Comprenez bien qu'il est impossible de faire demi-tour. La seule solution, c'est de continuer vers la Lune, de s'appuyer sur sa propre gravitation pour prendre de l'élan, de faire le tour et de repartir vers la Terre. Il va falloir 4 jours à l'équipage dans ces circonstances extravagantes pour finalement amerrir en plein Pacifique le 17 avril 1970, comme on dit, plus de peur que de mal.
Oui, heureusement. Effectivement, le film était très réussi avec Tom Hanks. À tout à l'heure, Franck, 9h. La météo, Virginie Fulpin, 3 départements en alerte orange.
Les 2 départements Corse en alerte pluie, inondation. En Savoie, c'est une alerte orange aux avalanches. De forts cumuls de neige sont attendus à la frontière italienne, notamment pluie et neige sur la moitié est du pays, des éclaircies à l'ouest. Il ne fait que 3 degrés ce matin à Rennes, Limoges et dans le Cantal, 6 dans le Cotentin, 9 à Paris et 13 degrés à Nice.